Les monuments aux morts des cantons de Lombez et de Sabatan avec Marie-Thérèse Caille.
Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à deux pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, au vrai poilu.
Alors là, nous sommes au cœur de l'office de tourisme de Samatan qui présente une exposition dédiée à ces fameux monuments aux morts. Et vous vouliez me parler de celui de Lombez, mais avant, vous vouliez dire un petit mot sur l'exposition.
Oui, parce que moi, je veux bien parler de Lombez, mais l'exposition, elle existe que parce que l'AFNACA, donc la Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie, s'est réunie avec tous les anciens combattants que nous avons encore. Et puis, M. Godon, Yves Godon, qui est un Samatanais, qui avait eu la bonne idée, dans la perspective d'ailleurs d'une exposition, de faire les photos des monuments aux morts de tout le canton de Samatan-Lombez. Si vous voulez, donc on a une trentaine, même un petit peu plus, parce qu'il y en a qui sont en dehors du canton, qui sont représentés ici, et qui donnent quand même une idée un peu générale de ce qu'on peut trouver à travers la France pour ces monuments. Je répète qu'il y a eu 150 000 monuments qui ont été faits. Et alors, donc, ces photos qui ont été faites gratuitement par M. Godon, qui les a présentées à la FNACA, du coup, ils sont allés un petit peu plus loin en disant, si on en faisait une exposition, et puis on est même un petit peu en train de penser avec Samatan et Lombez qu'on pourrait peut-être faire un petit opuscule qui montrerait ces photos, et ainsi, comme ça, les générations futures auraient un regard de mémoire sur tout ce qui a été fait dans ce coin-ci. Surtout que les gens, surtout, ne doivent pas regarder forcément leurs monuments aux morts. Alors, nous avons parlé de Samatan devant, tout à l'heure. On en a un autre qui est important aussi, important pour ce que je vous ai dit au point de vue artistique, je me place sur ce point-là, c'est celui de Lombez. Parce que lui aussi, celui de Lombez, a été fait, donc là, dans cette exposition, il y a la photo, mais vous pouvez aller à Lombez, il a été fait par un sculpteur, là aussi. Là-bas, nous avons vu que c'était Georges Vivant. À Lombez, c'est un Toulousain, mais qui avait travaillé à Paris, qui s'appelait Grand Maison, je vous dis le nom, et qui a fait donc un poilu, habillé en bleu horizon, tenant sans doute la dépêche qui annonçait la victoire, ou tout au moins le cessez-le-feu, appuyé sur son fusil Lebel, et dressé en haut d'une stèle, n'est-ce pas, qu'on voit donc de très très loin. Ce Grand Maison, alors j'insiste plus que sur Vivant, Vivant était donc sculpteur toulousain, ce Grand Maison avait quand même été l'élève de Falguière. Falguière, ça doit dire quelque chose aux gens quand ils vont à Paris, il y a un métro qui s'appelle le métro Falguière. Donc Falguière a été un grand sculpteur de l'époque, donc c'était pas n'importe qui. Et le monument a coûté aussi très cher à Lombez plutôt, ainsi que la grille qui était tout autour, là que vous ne voyez pas parce qu'elle a été ouverte dans la photo, mais il y a la grille qui est encore tout autour. Pareil qu'à Samatan, mais je vous dis, le système est pareil partout. On a choisi un endroit particulièrement remarquable à Lombez, on a vu que c'était entre les deux halles à Samatan. À Lombez, c'était sur une place, la place du Trianon, donc visible de la cathédrale, visible des routes, et la place du Trianon était traditionnellement à cette époque-là un endroit de réunion, de passage, où on se réunissait en particulier pour les grandes processions quand on allait à la cathédrale. Vous voyez, on a investi un grand endroit. Alors voilà, je vous dis ça parce que voilà un poilu. Alors des poilus, je vous dis, vous avez des dans toute la France des poilus dans toutes les positions possibles représentés, assez rarement d'ailleurs combattants et avec les souffrances qu'ils subissaient. Vous voyez, on avait édulcoré un peu les choses. Il y a simplement dans le nord de la France, où quand même ils avaient subi des durs dégâts, à la fois des destructions de leur village, on les représente quelquefois sortant de la tranchée, mais il y a très très peu de monuments de ce genre. Bon, donc voilà un autre genre de monument qu'on a à Lombez et que je vous signale d'aller voir. Là encore, vous retrouvez la palme qui est en bronze, vous voyez. Donc c'est toutes ces petites choses qui ont l'air des accessoires, si je peux dire, étaient rajoutées et étaient payées. Et alors, je vais vous raconter un truc que j'ai trouvé marrant, c'est un ancien combattant qui me l'a raconté l'autre jour, c'est qu'autour des monuments aux morts, on le voit à Lombez, c'est pas le cas à Samatan, mais on le voit ailleurs, vous avez quatre obus quelquefois. Et bien là, c'était le ministère de la guerre, ou le ministère de l'intérieur, non, je pense que ça va être la guerre, qui proposait aux communes, vous voyez, il n'y a pas de petit profit, de leur vendre des obus pour encadrer le monument aux morts. Vous voyez, tout le monde essayait de tirer un petit peu des sous. Et si j'étais sérieuse aussi, je vous dirais que quand les municipalités n'avaient pas assez d'argent, elle faisait quelquefois une souscription publique. Je crois qu'à Samatan, il y en a eu une, à Lombez aussi, qui a énormément donné. À l'époque, les gens ont beaucoup donné, justement, pour ce que je vous disais tout à l'heure, qui souvent, ils n'avaient jamais revu leur mort et que, bon, ça les tenait aux tripes. Et par ailleurs, l'État avait quand même proposé, je crois que c'est en 1919, de donner une petite subvention, mais au prorata, si je peux dire, des morts que vous aviez eues. Et si vous n'aviez pas eu assez de morts dans votre village, on ne vous donnait pas beaucoup d'argent. De toute façon, l'État donnait peu d'argent. Mais quelquefois, ça a permis de remplir la chaussette et de pouvoir payer le coût du monument aux morts qui était très, très cher.
Sur la grande route hier bordée de moissons blondes, aujourd'hui dévastée par les soudards germains, un homme fuit hagard, l'allure vagabonde, tandis que le canon...
Est-ce que ces monuments exaltent la victoire française? Existe-t-il sur ce territoire des monuments aussi qui parlent de la réconciliation, qui disent que dénoncent cette guerre?
Non, assez peu. Vous pouvez trouver la réconciliation. Disons qu'on peut déjà être content quand ils sont relativement pacifistes et qu'ils ne demandent pas encore une revanche. Ils ne demandent plus une revanche, alors qu'en 70, ils pouvaient demander une revanche, et pour cause. Non, à la limite, ils vous disent « à nos enfants morts du pays ». Ou alors, vous en avez un où il y a écrit « souviens-toi ». Et quand tu passes par là. Donc, quelquefois, par des inscriptions, essayez de dire aux vivants, voilà ce que ça a été, et pourvu que ça n'arrive pas. Mais à nos morts qui nous ont sauvés et qui nous ont permis de conserver notre liberté. Ça aussi, ça peut être dit. Donc, c'était plutôt optimiste. Alors maintenant, vous me disiez, m'avez demandé s'il y avait côté d'écrasement de la guerre. Non, ils en ont trop vu, je pense, pour essayer d'aller plus loin, de demander une revanche. C'est pas vrai. Bon, par contre, il y en a un qui est amusant, qui est celui de Villefranche. Alors, je ne suis pas sûre que Villefranche soit dans la communauté de communes. Villefranche d'Astarac. Je vous le montre, là, il est complètement à l'autre bout dans la salle. Villefranche-d'Astarac, il m'a beaucoup amusé parce que, justement, vous voyez, il y a un système de plusieurs stèles superposées les unes au-dessus des autres. Alors, généralement, là encore, ou une pyramide ou un obélisque. Vous voyez, je reprends ce que je vous disais tout à l'heure. On va dans l'Antiquité, je vous ai dit romaine. L'obélisque, c'est l'Antiquité égyptienne. Et la petite pyramide, c'est l'Antiquité égyptienne aussi. C'est le tombeau des pharaons, tout le monde le sait. Alors, petite pyramide, généralement un peu pyramidion. Donc, par exemple, à Villefranche, vous avez plusieurs trucs qui sont les uns au-dessus des autres. Bon, la croix de guerre, les trois quarts du temps, la croix de guerre qui a été donnée à tous les villages pour leurs combattants. Mais à Villefranche, pour revenir à Villefranche, qu'est-ce que vous avez? Le coq gaulois. Le coq gaulois, cocorico. Alors, le coq gaulois, c'est à la fois la Gaule, bon certes, mais c'est la démocratie, car il ne faut pas oublier qu'on s'est battu contre l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois, et que l'incarnation de l'Empire austro-hongrois, c'était l'aigle. Et quelquefois, on a le coq qui piétine l'aigle. Alors là, je ne l'ai pas sur le monument, on a le coq tout seul, mais c'est le coq patriote et en même temps, le coq républicain, par opposition à l'Empire austro-hongrois. Il y a l'Empire qui n'est pas la démocratie, mais qui est au contraire la royauté. Donc, vous voyez l'idée, ou l'Empire. Bon.
Donc là, on exalte plus la République que la victoire française, une victoire nationaliste.
C'est la République, mais c'est la République française. Là, c'est à peu près le seul endroit, le coq, vous n'allez pas le voir ailleurs. Vous avez, parce qu'en même temps que cette exposition de photos, vous avez un collectionneur de Dosh, qui a prêté toute sa collection, il faudrait qu'on dise son nom. Voilà, c'est la collection de monsieur Jean Chazotte, et vous verrez dans des vitrines, donc il y a aussi bien des collections d'assiettes que des collections d'obus sculptés comme on avait tous dans les familles autrefois. Mais pour en revenir à mon coq, vous avez un encrier particulièrement spectaculaire, je l'ai fait remarquer aux gens l'autre jour, où vous voyez ce que je viens de vous dire, le coq gaulois, donc la France, et qu'est-ce qu'il a sous ses petites pattes? Regardez, cet encrier était terrible. L'aigle qui est en train de mourir, n'est-ce pas, sous les pattes du coq. Voilà, donc il y a des choses comme ça amusantes. Bon, il y a à peu près que ça. D'habitude, on voit rien d'autre de ce genre de très belliqueux, en quelque sorte, n'est-ce pas? Bon, si, alors là, évidemment, mais, parce que moi, j'ai vécu dans ces coins-là. En Alsace et Lorraine, on récupérait l'Alsace et la Lorraine. Alors, très souvent, vous allez avoir le poilu victorieux ou mourant, le malheureux, mais à côté... En costumes régionaux, l'Alsacienne et la Lorraine, dans leur habits régionaux, si vous voulez, qui sont à côté, parce qu'on avait récupéré ça à l'Empire allemand, n'est-ce pas, et aux Allemands, en quelque sorte. Alors, vous avez celui-là qui est amusant. Alors, les communes qui n'avaient vraiment pas beaucoup d'argent, eh bien, elles se contenteront d'avoir des plaques. Alors, soit dans les églises, soit sur le mur de l'église, soit sous l'auvent de l'église, comme souvent dans nos villages. Et par exemple, ici, vous avez le monument aux morts de Pompiac. Et là, vous voyez très bien ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous enlèverai 14-18, vous diriez, mais c'est une tombe dans un cimetière, une tombe chrétienne en plus. Parce que là, du coup, on a pourtant une quinzaine de morts, si ce n'est pas plus, n'est-ce pas, que vous avez devant vous. Et c'est absolument le petit édicule de l'époque qu'on faisait à cette époque-là, que le marbrier Jean Marchand de pompe funèbre du moment, et avec petit fronton et la croix latine. Mais la croix latine au-dessous, on va quand même vous mettre la couronne de laurier, la croix de guerre ici au milieu, et puis les morts. Et on va même vous mettre, comme sur toutes les tombes dans les cimetières, Resquies Cantine Paché, vous savez, repose en paix. Donc, comme on fait, ça se faisait partout. Et vous voyez que là, on vous a rajouté les morts de 39-45 sur la scène. Donc, vous en trouverez plusieurs. Il y en a une à Pompiac, il y en a une à Montadé, il y en a une à Saint-Lizier-du-Planté. Oui, c'est toujours à peu près la même chose.
Mais celle de Pompiac n'est pas à l'intérieur de l'église et pourtant il y a une croix.
Oui, non mais justement, c'est ce que je vous dis, il y a quand même, ils ont mis une croix parce qu'ils ont continué, donc ils ne devaient pas être tellement anticléricaux, parce que mon Dieu... Mais c'est vrai que quelquefois, vous avez des gens qui n'ont pas voulu être sur des plaques comme ça parce qu'il y avait la croix.
Quand au bout de 8 jours, leur pot terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes.
Bon, la palme, elle est mise de manière différente, mais vous avez toujours la croix de guerre. Là, je la vois pas, mais elle doit tout à fait... Oui, c'est la croix de guerre, là. C'est pas du tout la croix latine qu'on se tombe pas. Alors, par contre, dans les monuments plus récents, à Pelfig, bon, vous voyez tout de suite qu'on dirait une tombe d'aujourd'hui. À Pelfig, il y a une petite nouveauté, mais ils l'ont fait récemment. Ils ont dû le faire en 2006 ou 2007 ou 2008, je devrais le savoir, mais je n'ai pas mes notes. Ils ont rajouté quelque chose, une petite tombe, pas une petite tombe, puisque c'est plutôt une stèle commémorative, en l'honneur des orphelins et des veuves de la guerre de 14-18. Il n'y a que là qu'on l'a, c'est le seul du département.
Et sans distinction de nationalité, ça peut très bien s'appliquer aussi aux soldats allemands.
Ah non, pas dans nos coins, parce que c'était quand même les noms des gens qui étaient là. Celui-ci à Espon. Vous voyez, vous avez bon, un socle toujours pareil, les noms toujours pareils. Et donc, la stèle d'en haut, qui est simple, n'est-ce pas? Vous avez de chaque côté, si vous regardez bien, traité au naturel, si je peux dire. On vous appelle les feuilles de chêne tout à fait comme il fallait, les glands, tout ce qu'il fallait. Mais on a suspendu tout le barda du poilu. Sa gourde, son sac, et puis là, deux petites bombardes, vous voyez, deux petites bombardes qui n'ont rien à voir avec des canons normaux. Alors ça, on nous l'a expliqué dernièrement dans une conférence faite par M. Berda, qui est un universitaire qui travaille à Toulouse et qui vit à Saint-Matan. Il nous a expliqué que dans les tranchées, au bout du moment où on s'est stabilisé dans la guerre des tranchées, les canons importants qu'ils avaient, qui tiraient très 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 loin, en fait, ils se sont rendus compte que ça ne servait strictement à rien, puisque les bombes arrivaient 500 mètres après ou 1 km après, les gens qu'ils voulaient, qui étaient à 2 mètres 2 dans une autre tranchée. Donc, ils ont imaginé ces petites bombardes que vous avez là, qui nous rapprochaient presque plus de la guerre du Moyen-Âge que de la guerre d'aujourd'hui. Et ces petites bombardes ont donné les mortiers après. Or là, on se rend compte qu'à Espon, il va falloir que j'aille voir le maire d'Espon et qu'il m'explique, qu'il retrouve des papiers dans sa mairie, ce que j'ai demandé à certains autres qui me l'ont envoyé. La personne qui a commandé le monument a su expliquer des choses. Il pouvait y avoir que les gars qui avaient été dans les tranchées qui vous expliquent quelque chose comme ça. Et des petites bombardes. Donc il est tout à fait intéressant celui-là. Et visiblement, il vient d'être restauré.
Il passe trop tard, on les aura, il passe trop tard. Nos poilus résolus contre brave. Les Français ne sont jamais des esclaves. Des têtes de poche aux appétits cruels et sages. Ils ne passeront pas, on les aura, ils passeront pas. Le succès est forcé pour nos armes.
À Verdun, ils ne passeront pas en effet. Et 46 ans auparavant, l'armée allemande atteignait Paris. La France vaincue va cependant honorer ses morts par des monuments. Notamment dans la commune voisine de Simore, comme nous le rappelle Marie-Thérèse Caille.
C'est un soldat de 1870.
Ouais, c'est un soldat de 1870. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, celui-là, il n'est pas normal. par rapport aux autres. Donc il est habillé avec le costume de l'époque, le costume avec lequel d'ailleurs les gars en 14 sont partis à la guerre. Vous savez qu'ils avaient le pantalon Garance, c'est-à-dire rouge, n'est-ce pas, la veste qui était aussi très claire, elle était bleue, je me demande aussi, et le petit képi rouge. Bon, donc tout ce qu'il fallait pour être vu de loin et pour être canardé comme dans une chasse au canard. Bon, donc après, dès que les premières hécatombes des débuts de la guerre de 14, on a changé, ça a été le Bleu Horizon, qui n'était pas tellement mieux d'ailleurs, enfin un peu mieux quand même, par rapport à ce qu'avaient les Allemands, qui avaient déjà des tenues camouflées, des choses comme ça. Donc à Simorre, on a cette chose assez extraordinaire, c'est un guerrier de la guerre de 70, il y a eu peu de monuments à la guerre de 70, et ce qui fait qu'ils ont été de meilleure qualité, moi je vous parle toujours artistiquement parlant, n'est-ce pas, esthétiquement parlant, que les autres, parce qu'il y en a eu très peu fait, on n'était pas vainqueurs, on était vaincus même, donc on a fait quelques monuments, et en particulier celui-ci, où c'était un officier porte-drapeau qui partait avec son drapeau, et qui commémore d'ailleurs une victoire de l'armée de la Loire pendant la guerre de 70. Et il y en a, vous avez le même monument à Paray-le-Monial, vous avez le même monument à Mende, et vous avez curieusement le même monument à Simorre. Donc là, ça a dû être des commandes qu'on a fait à des fonderies. Je crois même que sur les fonderies d'Urène, qui étaient des fonderies de la Marne, et qui perdurent encore aujourd'hui, qui font des choses en fonderie. Bon. Alors là, vous voyez, puisque vous m'avez amené vers ce monument, 70, mais en bas, sur le gros piédestal, assez énorme et assez à la manière romaine, eh bien, on a mis sans doute les morts de la guerre de 70, et puis ceux de la guerre de 35-40, et puis sans doute, on a rajouté ici, je ne vois pas ce qui est écrit, ceux peut-être de la guerre...
Alors, ce sont des déportés politiques espagnols morts à Dachau.
Oui, mais c'est quand même la dernière guerre. Enfin, la guerre de... Alors là, celle-ci, ils savaient, ils viennent de le faire restaurer, mais encore un autre monument, une colonne, mais celle-ci, ce n'est pas une colonne, à mon avis, c'est une torche qu'on a voulu essayer d'exprimer, puisque vous voyez en haut, cette espèce de petite chose dorée, c'est la flammèche de la torche, et ça fait penser à la flamme, le flambeau antique qui porte le flambeau, la flamme du soldat inconnu, si vous voulez. Donc, très stylisé, évidemment. Alors là, vous allez hurler encore plus et encore davantage, et c'est vrai que quand on voit ça, on est étonné, surtout quand on sait les ordres qui ont été donnés, surtout pas de signes distinctifs religieux. Alors ici, ce qu'on pense, j'ai même interviewé des gens de Savignac-Monam, ils n'ont pas cherché. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ils ne savaient pas quoi faire, mais ils avaient un Sacré-Cœur. Donc, sur ce, avouez que le Sacré-Cœur qui est ici est assez curieux. Et sur le socle où il y avait le Sacré-Cœur, ils ont mis la plaque de marbre avec les noms des morts de la guerre. Voilà. Mais quand même, vous voyez, toujours cet essai de faire un espace sacré, un espace. Les marches ont une raison d'être, c'est que ça vous sépare toujours de l'espace des vivants. À Sauveterre et à Sabayan, vous avez quasiment le même... Non, il y a Saint-Soulan, si vous regardez bien, Saint-Soulan, et Sauveterre, c'est le même monument qui a été commandé et qui a été fait. Bon, alors, est-ce que c'était... Il y avait des échanges. Bon, là, je crois qu'on a fait à peu près tous ceux qui... Enfin, généralement, c'est gros piédestal, une stèle, qui est soit une colonne, soit une pyramide, soit une petit pyramidion, soit une stèle ou une colonne, ou un obélisque. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. À Pulosic, il y en a intéressant, enfin, parce que je le trouve sobre. Et sobre, il devait quand même avoir de l'argent, Pulosic, parce que quand on se rend compte de la qualité, on dirait un espèce de petit temple grec, vous voyez, avec les petits frontons, ces lourdes chutes de lauriers, comme nous avons vu à Saint-Martin. Puis là où je vous dis qu'il devait quand même avoir des moyens, c'est que des plaques en bronze, là on voit bien que c'est du bronze, et une très très belle palme, vous voyez, acheté à une fonderie du Nord, comme ça. Et vous avez l'autre côté, vous pouvez regarder la même chose, toujours la plaque de marbre. Donc ça venait se rajouter au prix. Et la plaque de marbre sur laquelle on gravait en doré. Et là, c'est là aussi, vous avez un petit peu tout. Souviens-toi, voilà, au moins, on met bien dans l'esprit des gens, souviens-toi de ce qu'il y a eu et des morts qui ont été, qui sont tombés pour notre liberté, à vrai dire, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a à peu près toujours la même chose. Là, toujours, en tout cas, regardez l'emplacement à Sabayan. La stèle, le monument mort, est tout près, sans doute du cimetière qui doit être là-bas derrière, et en tout cas tout près de l'église. Donc toujours dans des endroits où on va passer, où on va voir.
La victoire.
C'était les monuments aux morts des cantons de Lombez et de Saint-Martin, avec Marie-Thérèse Caille. Prise de son et mixage Nicolas Herry pour la communauté de communes du Savès. Merci à Jean-Yves Godon, Norbert Falzon et l'Office de tourisme de Saint-Martin.